Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour, le deuxième rapport de la Commission européenne confirme le conflit d'intérêts du Premier ministre Andrej Babiš selon une information publiée par le site neoblivini.cz. Les Tchèques sont favorables à l'organisation des élections pendant une journée. Les joueuses de tennis tchèques se mobilisent pour aider les victimes des incendies en Australie. Selon l'information publiée ce lundi par le site neoblivini.cz, qui se réfère à une source digne de confiance, l'audit de la Commission européenne concernant les subventions agricoles confirme le conflit d'intérêts du Premier ministre Andrej Babiš. D'après le site, ce rapport définitif, qui n'existe pour l'heure qu'en version anglaise, constate que le chef du gouvernement continue de diriger le géant agroalimentaire Agrofert. Ce lundi, le Premier ministre tchèque a une fois de plus réfuté les soupçons de conflit d'intérêts qui pèsent sur lui. Il a répété qu'il avait placé en 2017 ses parts dans Agrofert, dont il était le chef, dans deux trusts suite à l'entrée en vigueur en République tchèque de la loi sur les conflits d'intérêts. Ni le ministère de l'Agriculture, ni les autres institutions concernées n'ont confirmé la réception du rapport en question. Il s'agit du deuxième rapport d'audit de la Commission européenne sur les affaires d'Andrej Babiš. Le premier a confirmé en 2019 que le chef du gouvernement tchèque avait abusé de sa position pour favoriser l'obtention de fonds européens par le groupe Agrofert. Près de 58% des Tchèques se disent favorables à l'organisation des élections pendant une seule journée, selon un sondage réalisé par l'agence Médiane pour la radio tchèque. Environ un tiers des Tchèques souhaitent conserver le système actuel qui leur permet de voter le vendredi après-midi et le samedi matin jusqu'à 14h. La moitié des personnes interrogées préfèrent se rendre aux urnes samedi, tandis que 7% des sondés voudraient voter dimanche. Le ministère de l'Intérieur prépare un projet de loi censé limiter les scrutins électoraux à une journée de vote le vendredi. Un projet qui déplaît au président Miloš Zeman. Selon lui, cette modification conduirait à une baisse de la participation. Parmi les autres changements prévus par le ministère de l'Intérieur, l'instauration du vote par correspondance depuis l'étranger et la suppression de l'envoi obligatoire des bulletins de vote. Ces changements pourraient rentrer en vigueur avant les prochaines élections législatives prévues pour 2021. Le Premier ministre tchèque a appelé à davantage d'engagement européen sur la scène internationale. Andrej Babiš déjeunait dimanche dernier en famille au château de Lahane, la résidence du président de la République, Miloš Zeman. Avec le président, nous avons parlé de politique internationale. Nous sommes d'accord sur le fait que l'Europe devrait appeler les États-Unis et l'Iran à faire en sorte que la situation ne se détériore pas et que nous devrions davantage nous engager en tant qu'Européens. La situation en Libye est aussi compliquée, donc nous devrions nous efforcer d'être actifs pour trouver des solutions, a déclaré le chef du gouvernement à la presse après ce déjeuner. Une trentaine de personnes ont manifesté dimanche devant l'Opéra d'État de Prague contre le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Ce dernier a participé à la soirée de gala organisée à l'occasion de la réouverture de l'Opéra d'État après de vastes travaux de rénovation. Les Pragois ont notamment protesté contre une loi controversée sur la culture adoptée en décembre dernier par le Parlement hongrois et considérée comme une attaque à l'indépendance du théâtre. Les artistes tchèques du Théâtre national et de l'Opéra d'État de Prague avaient alors exprimé dans une lettre ouverte leur soutien à leurs collègues hongrois. À l'instar des autres stars du sport mondial, les joueuses tchèques de tennis Karolina Plíšková et Petra Kvitová se mobilisent pour aider les victimes des incendies ravageurs en Australie qui ont fait 24 morts depuis septembre. Ils ont promis de verser respectivement 200 et 150 dollars australiens pour chaque as réussi lors de leur match disputé prochainement en Australie. Et dimanche, la numéro 1 mondiale de tennis australienne Ashleigh Barty s'est engagée à faire don de ses gains du tournoi de Brisbane à la Croix-Rouge afin d'aider les victimes des incendies. Côté météo, le ciel sera nuageux à couvert avec des chutes de neige en altitude mardi, jour de la fête des Vélmas. Les températures seront comprises entre moins 1 et 3 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková à la suite du programme avec Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Magdalena Rosinkova pour le bulletin du jour. 200 bébés ont été déposés dans les baby box de République tchèque depuis l'installation de la toute première boîte à bébés dans le pays. Après avoir longtemps fait l'objet de critiques, ce système qui permet de recueillir les nouveau-nés abandonnés semble désormais faire consensus. L'Opéra d'État de Prague fait peau neuve et rouvre ses portes après 3 ans de travaux de rénovation. Dimanche, une soirée de gala a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison lyrique dont la première mise en scène publique aura lieu dès jeudi. Place au sport en seconde partie d'émission. Un nourrisson a été déposé samedi soir dans la baby box installée dans la commune de Blansko, à quelques kilomètres au nord de Brno en Moravie. Le petit garçon a été transféré vers l'hôpital de Boskovice et est en bonne santé. Il s'agit du 200e bébé ainsi recueilli depuis 2005, quand la première de ces boîtes à bébés a été installée en République tchèque. Plus de détails avec Alexis Rosenzweig.
Il existe à ce jour 76 boîtes à bébés, c'est comme ça qu'on traduit en français « baby box » en République tchèque. Ludwig Hess, le fondateur en 2005 du réseau de baby box en Tchéquie, voudrait en installer une dans toutes les communes les plus peuplées. Si ce dispositif a encore des critiques, on les entend de moins en moins, c'est ce qu'estimait déjà Ludwig Hess il y a quelques années sur notre antenne.
Au tout début, il y a eu beaucoup d'opposition, notamment dans la plupart des institutions de l'État et du gouvernement. Le ministère de la Santé, le ministère de la Famille et des Affaires Sociales, et bien entendu le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus d'opposition. De temps à autre, il y a bien quelques médecins. Ce qui est amusant, c'est que leurs arguments ne reposent pas sur des critères médicaux, mais légaux. Par exemple, la question de savoir si laisser un bébé dans une boîte n'est pas un crime ou si cela n'est pas contraire aux droits de l'enfant, puisque chaque enfant a le droit de connaître son identité.
Et Ludwig Hess estime que les parents qui sont venus récupérer leur enfant après l'avoir abandonné dans une baby box peuvent se compter sur les doigts de la main. Il précise que si l'identité du bébé n'est pas connue, le processus d'adoption peut être enclenché beaucoup plus rapidement que si ses parents peuvent être retrouvés. Ils doivent alors consentir formellement à l'adoption devant le juge. Ce fut le cas du dernier enfant abandonné en 2019, à l'âge de 9 mois. Le premier bébé de l'année 2020 n'a que quelques jours et il a été prénommé Jan par Ludwig Hess. Selon le docteur Kratochwil, interrogé sur le sujet peu de temps après l'installation d'une baby box pas loin de la radio à Prague 2, Vinohrady, la boîte médicalisée est un outil de très bonne qualité.
C'est une chose excellente parce que vous avez possibilité tout de suite donner les soins intensifs pour le bébé. Vous pouvez faire toutes les recherches laboratoires et vous pouvez garder la vie de ce bébé, oui. Une box normale, il n'est pas nécessaire de donner oxygène ou quelque chose comme ça, non. Parce que ce sont les bébés qui sont après d'accouchement donné. Et le bébé a possibilité de vivre seul, n'est-ce pas? C'est comme après un accouchement normal à l'hôpital. Cela suffit que quelques minutes. Peut être seul dans cette box.
Côté financier, une baby box représente un investissement de départ d'environ 300 000 couronnes tchèques. Cela fait environ 17 000 euros. Et le financement est assuré par des dons privés qui varient d'année en année, selon Ludwig Hess. Prochainement, les villes de Zdjar nad Sázavou, Louny, Tachov et Mielnik devraient être équipées également.
C'est par une grande soirée de gala qu'a officiellement rouvert ses portes dimanche soir l'Opéra d'État de Prague, 3 ans après sa fermeture pour d'importants travaux de restauration. La soirée était organisée 132 ans, jour pour jour, après la première représentation de ce qui était alors le nouveau théâtre allemand. « C'est par l'ouverture des maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner qu'a été solennellement inaugurée la soirée de gala de l'Opéra d'État sous la direction du chef d'orchestre allemand Karl-Heinz Steffens, nommé l'an dernier directeur musical de cette institution pragoise à l'histoire plus que centenaire. Tout au long de la soirée, se sont succédés sur la toute nouvelle scène de l'Opéra d'État de grands noms de l'art lyrique tchèque et étranger, comme le ténor Pavel Tchernoch, la soprano Eva Urbanova ou sa jeune collègue norvégienne Lise Davidsen, pour interpréter des œuvres de Mozart, Richard Strauss, Bedřich Smetana ou encore Bohuslav Martinů. Le concert était ponctué d'intermèdes sous forme de projection d'un film d'Alice Nellis retraçant l'histoire du bâtiment. Les travaux engagés il y a 3 ans avaient pour but de redonner à ce dernier son lustre d'antan lorsque ce qui était encore le nouveau théâtre allemand fut inauguré en 1888. Originellement estimé pour une somme totale de 900 millions de couronnes, le budget de cette rénovation a été réévalué en cours de route pour atteindre 1,3 milliard de couronnes. En cause, la nécessité de moderniser encore davantage les lieux, selon le directeur Jan Burian.
Même si cela a été difficile, nous sommes parvenus à intégrer les technologies du 21e siècle dans un bâtiment du 19e. Cela va avoir un impact positif sur toutes les mises en scène. Le plus compliqué, ça a été avec la plaque tournante de la scène. Nous pensions à l'origine que la réparer serait suffisant, mais en fait, elle a été entièrement remplacée.
Des papiers peints remplacés par du tissu mural au nouveau siège, des dorures à la modernisation de l'éclairage, c'est un ravalement complet, tant dans la salle de concert qu'en coulisses, qui a été effectué à l'Opéra d'État, dont l'histoire a été marquée par les soubresauts du XXe siècle. Créée à l'origine à destination des Allemands de Prague, l'institution attire les plus grands de son temps. Gustav Mahler, Richard Strauss, Enrique Caruso. Lorsque la Tchécoslovaquie est occupée par les nazis à partir de 1939, le bâtiment est rebaptisé Deutsches Open House et accueille bien plus souvent les rassemblements du NSDAP que les concerts. La fin de la guerre change la donne et un groupe de jeunes artistes tchécoslovaques s'efforce d'en faire une scène avant-gardiste pour faire concurrence au Théâtre National, réputé plus conservateur, comme le rappelle Marie Hradecka en charge des archives de l'Opéra d'État.
Ils ont monté l'opéra Les Brandebourgeois en Bohême, qui a été joué sur une scène en forme de croix gammée. À l'époque, c'était novateur et tout à fait différent de la façon de jouer cette pièce au Théâtre National.
L'arrivée au pouvoir du régime communiste conduit à la fusion de cette scène lyrique avec le Théâtre National. Le retour de la démocratie en 1989 signifiera l'indépendance retrouvée de l'Opéra d'État, une autonomie de relative courte durée avant une nouvelle fusion avec le Théâtre National en 2011. Aujourd'hui, l'Opéra d'État s'apprête donc à accueillir à nouveau les amateurs d'art lyrique, et ce dès le 9 janvier, avec Fidelio de Beethoven pour sa première mise en scène publique. L'occasion également de découvrir la réplique du rideau d'origine d'Edward Veidt, qui s'est mystérieusement volatilisé en 1945. Plus de 1000 heures de travail ont été nécessaires afin de réaliser ce nouveau rideau sur la foi d'une seule et unique photographie noir et blanc qui donne une idée de ce qu'était l'œuvre disparue.
Certi riguardi, io veder se il lume già lontano.
Ma come da costei liberarmi?
Rimani.
On passe tout de suite à la seconde partie de notre émission. En décembre dernier, Lukáš Krpálek a été élu sportif tchèque de l'année, écoulé pour la deuxième fois de sa carrière, déjà mis à l'honneur en 2016. Suite à son sacre olympique à Rio, le meilleur judoka tchèque de l'histoire a récidivé en 2019, essentiellement grâce à son titre mondial décroché à Tokyo dans la catégorie reine des plus de 100 kilos. Et à l'aube d'une nouvelle année olympique qui sera marqué aussi par la tenue des championnats d'Europe de judo à Prague en mai prochain, du 1er au 3 mai plus précisément, un des principaux adversaires de l'ogre français Teddy Riner voit les choses en grand pour 2020 aussi. Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
Czech Republic, Lukáš Kvalik.
Le sport tchèque vit décidément des heures heureuses ces deux dernières semaines, probablement même les plus heureuses et les plus fertiles de cette année 2019. En décembre prochain, lorsque viendra le moment d'élire comme de tradition le sportif et l'équipe tchèque de l'année écoulée, il ne faudra surtout pas oublier le titre mondial du judoka Lukáš Krpálek, décroché à Tokyo dans la catégorie reine des plus de 100 kilos, et donc le parcours quasi inespéré de cette sélection tchèque de basket à la Coupe du Monde. Voilà ce que nous disions, et oui, sur Radio Prague International en septembre dernier. À l'époque, les basketteurs, emmenés par leur capitaine Tomáš Satoranský, venaient de décrocher une qualification inattendue pour les quarts de finale d'un mondial dont ils ont finalement fini sixième, et ainsi d'écrire une des plus belles pages de l'histoire de leur sport en République tchèque. Et nous ne nous sommes pas trompés, puisque tandis que la sélection nationale de basket a bien été élue meilleure équipe tchèque de l'année 2019 devant les footballeurs du Slavia Prague, Lukáš Krpálek, lui, a été désigné champion des champions tchèques lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Prague le 20 décembre dernier.
Lukáš Krpálek, sportovec roku 2019.
C'est quelque chose de magnifique. C'est une immense récompense pour l'ensemble de l'année qui a été très exigeante pour moi. C'est la cerise sur le gâteau, mais aussi une grande source de motivation pour 2020, où les défis à relever seront immenses et où l'objectif sera de continuer à bien travailler et à gagner.
Premier tchèque de l'histoire sacré champion du monde de judo en 2014 chez les moins de 100 kilos, une catégorie de poids dans laquelle il a également remporté 3 titres européens. Lukáš Krpálek est aussi devenu l'été dernier le premier judoka de l'histoire à s'imposer également à l'étage au-dessus, c'est-à-dire dans la catégorie des poids lourds, qui plus est sur les tapis du mythique Nippon Budokan de Tokyo, là où se tiendra le tournoi olympique en août prochain.
C'était mon plus grand rêve et j'ai réussi à le réaliser. J'ai remporté les titres de champion d'Europe et de champion du monde dans deux catégories différentes. Et maintenant, je veux finir en beauté avec les Jeux Olympiques et évidemment les championnats d'Europe à domicile. Il me reste donc encore deux rêves à réaliser.
Le prix du sportif tchèque de l'année, distinction attribuée depuis 1959 par le club des journalistes sportifs, ne pouvait donc raisonnablement pas échapper à un Lukáš Krpálek, suivi du basketteur et meneur de jeu des Bulls de Chicago Tomáš Satoranský et du joueur de hockey sur glace et attaquant de Boston David Pastrňák. Le succès de Lukáš Krpálek est d'autant plus remarquable que depuis le légendaire Jaromír Jágr en 2005, il est le seul sportif à avoir remporté cette traditionnelle enquête à deux reprises. Donc, pour le reste, de la patineuse Martina Sablikova à la tenniswoman Petra Kvitová, en passant par les athlètes Barbora Špotáková et Zuzana Hejnová ou encore la skieuse Esther Ledecká avant lui en 2018, ce sont uniquement des sportives qui ont été coiffées de la couronne de champion tchèque de l'année.
Lukáš Krpálek a profité de l'absence de Teddy Riner en ce septième jour des championnats du monde de judo. En grande forme pendant le tournoi, le Tchèque a infligé...
Lors de son titre mondial à Tokyo, les médias français notamment n'ont pas manqué de souligner que Lukáš Krpálek s'était imposé en l'absence de Teddy Riner. Détenteur de 2 titres olympiques et de 10 autres mondiaux successifs, le Français, invaincu depuis plus de 9 ans, a dominé le Tchèque à 2 reprises en 2019 dans 2 combats de titans. D'abord à Montréal en juillet, puis à Brasilia en octobre. Pourtant, Lukáš Krpálek, comme il l'a confié dans un entretien à la télévision publique tchèque récemment, reste persuadé de disposer des armes nécessaires pour faire un jour tomber le monument français.
Je pense que je sais comment m'y prendre contre lui. Nous avons déjà combattu ensemble à plusieurs reprises et j'ai été en mesure de le mettre à terre et de l'inquiéter. Bien sûr, lui aussi m'a mis à terre à plusieurs reprises. En demi-finale du Grand Prix de Montréal, en juillet dernier, il ne m'a battu qu'au Golden Score et j'ai eu des chances de remporter le combat. Teddy Riner lui-même m'a confié que cela avait été un de ses combats les plus difficiles, ce qui m'a fait très plaisir évidemment. Ce n'est pas une obsession, plutôt une source de motivation, et je veux être le premier à le battre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai un peu modifié mon programme à l'automne dernier et participé au Grand Slam de Brasilia. Je voulais me frotter à lui et j'entends bien le battre un jour.
Et il va sans dire que, ne serait-ce qu'aux yeux de Lukáš Krpálek, très apprécié du grand public tchèque, le point d'orgue serait de réaliser l'exploit, soit en finale du championnat d'Europe devant son public à Prague, ou lors de l'ultime combat pour l'or olympique, entre un tchèque qui aurait alors l'occasion de devenir le premier judoka à réussir le doublé dans les catégories moins et plus de 100 kilos, et un Teddy Riner qui, de son côté, pourrait devenir le premier à remporter 4 titres olympiques individuels au jeu. Il s'agirait certainement d'un combat pour l'éternité.
C'est la fin de cette émission en français sur Radio Prague International. Merci d'avoir suivi ces sujets, mais bien d'autres encore, vous les retrouverez sur notre site internet, ça vous le savez, mais également rendez-vous sur les réseaux sociaux. Je vous invite à consulter notre page Facebook, mais également notre compte Twitter. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent, ahoy.